Imaginez, nous sommes tous nés dans cette salle, fermée de l'intérieur, d'où nous ne nous sommes jamais sortis et où nous avons passé toute notre vie. Si c'était le cas, bonjour l'ennui. Et pour tuer le temps, nous parlons souvent du monde extérieur. Et c'est Jonah qui lance toujours la discussion. Il a étudié cette salle pendant des années et il s'apprête à publier le résultat de ses études qui ont révélé la complexité de certains objets. Comment ce piano, par exemple, à ma droite, sur votre gauche, avec ses 88 touches et son mécanisme d'échavement, peut-il avoir été créé par hasard? Son existence, sa présence, ne renvoie-t-elle pas à quelqu'un ou à quelque chose qui l'a placé là? Mais Jonah reconnaît que personne n'a jamais rien vu. En fait, il est possible que rien n'existe à l'extérieur de cette salle. Ça va, tu t'en veux pas, Jonah? En fait, nous ne pouvons pas savoir. C'est ce que Jonah pense. En écoutant Jonah, Alex, très frustré, ne peut s'empêcher de réagir. Mais si, nous pouvons savoir, Jonah, nous pouvons savoir. Nous pouvons même avoir la certitude qu'il y a quelque chose à l'extérieur de cette salle. Mes parents m'ont élevé en me disant que le monde extérieur était peuplé de géants et de pygmées. Et je n'ai personnellement aucune raison de ne pas les croire. De son côté, Sephora, je ne l'ai pas prévenu, a du mal à dissimuler son mépris pour une foi mais si primitive. Il est temps de grandir, les enfants. Pourquoi ne voulez-vous pas regarder la réalité en face? Il n'y a jamais rien eu, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien à l'extérieur de cette salle. Le débat continue, passionné, jusqu'à ce que Judson perde patience. Judson, ah, t'es là, salut. Du calme, dit sagement Judson. Il y a une part de vérité dans tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites est vrai. Personnellement, je pense que le monde extérieur est peuplé de petits hommes verts. D'accord ? Mais si vous voyez les choses différemment, cela ne me pose aucun problème. Absolument aucun problème. Toutes nos opinions se valent. Soyons donc tolérants. Fin de notre petite conversation entre amis. Alors, comme vous vous en doutez, la salle dans laquelle vivent Jonah, Alex, Judson et Sephora représente l'espace et le temps dans lequel nous vivons. Et le monde extérieur en question correspond à l'existence ou à la non-existence de Dieu. J'espère que vous l'aurez compris. Et Jonah est agnostique, d'accord? Alors, dans cette fiction que je viens d'inventer, hein, on est bien d'accord. La seule chose dont il peut être vraiment sûr, absolument certain, c'est l'existence du monde matériel qui l'entoure. Ok? Et qui peut être prouvé par l'observation scientifique. Ça, il peut en être sûr. Mais toute discussion au sujet du monde extérieur relève de la pure spéculation. Il est prêt à croire qu'il y a peut-être quelque chose à l'extérieur de ce monde, mais il se peut qu'il n'y ait rien. En fait, nous ne pouvons pas savoir. D'accord ? Alex, lui, est croyant. Il est croyant. Il croit ce que ses parents lui ont dit dans le cadre de son éducation. Vous vous rappelez ? Des pygmées et des géants. Okay. Et il n'a aucune raison de remettre en question l'éducation de ses parents. Sephora est aussi croyante. Sephora aussi est croyante. Elle croit, tout à fait. Elle croit que le monde extérieur n'existe pas. Ceux qui croient que Dieu n'existe pas aujourd'hui, ce sont des athées. Leur foi, c'est l'athéisme. Ils croient, en effet, que Dieu n'existe pas. Judson est quant à lui relativiste. Alors, nous allons parler du relativisme, parce que le relativisme est une caractéristique fondamentale de la postmodernité. Juste pour vous donner une idée de ce qu'est le relativisme, je cite Raymond Boudon, c'est un grand sociologue français apparemment, dont j'ignorais l'existence, hein, rassurez-vous, mais qui dit ceci, la postmoderne, pardon, le relativisme est un mouvement de pensée qui a traversé les siècles depuis l'Antiquité gréco-romaine. Donc un mouvement de pensée. Mais même si le relativisme est, selon Raymond Boudon, un mouvement de pensée qui a traversé les siècles depuis l'Antiquité jusqu'à la depuis l'Antiquité gréco-romaine, son succès, il faut le dire, est retentissant en Occident seulement depuis la seconde moitié du XXe siècle et caractérise ce que nous appelons donc aujourd'hui la post-modernité. Donc si vous avez le plan qu'Alex a gentiment préparé pour nous, après l'introduction, je vous propose de répondre à cette question: qu'est-ce que la post-modernité? Dans un second temps, nous verrons qu'est-ce que la philosophie, vous allez comprendre pourquoi. Et dans un troisième et dernier temps, j'aimerais répondre à la question: quelle défense de la foi chrétienne? Donc premièrement, qu'est-ce que la post-modernité? Alors la post-modernité, comment dire, c'est un énorme bouleversement culturel, une nouvelle façon de voir le monde. Un mouvement de pensée, comme le dit Raymond Boudon, très complexe et vraiment très difficile à définir. Mais, heureusement que Alistair McGrath existe et a écrit ce livre que je vous conseille, « Jeter des ponts, l'art de défendre la foi chrétienne ». Les références de ce livre sont au bas du plan qu'Alex vous a distribué. Selon Alistair McGrath, qui est professeur de théologie à Oxford, chrétien, selon lui, la postmodernité, en fait, est une perspective intellectuelle générale. C'est très large comme définition, hein, mais c'est très difficile à définir. Donc, une perspective intellectuelle générale née de la faillite de la modernité. Donc, une perspective intellectuelle générale née de la faillite de la modernité. On va voir pourquoi dans quelques instants. Donc, Alistair McGrath donne cette définition tout en reconnaissant, qu'il est virtuellement impossible de donner une définition exhaustive de la postmodernité. Okay? Cependant, je pense qu'il est possible d'identifier deux caractéristiques principales, et ces deux caractéristiques principales, vous les avez, hein, sous vos yeux. La première, c'est une entreprise de démolition ou de déconstruction, et la deuxième, c'est le rejet de toute prétention à trouver une vérité objective. Alors, je vais passer rapidement, hein, sur ces caractéristiques. La première, la postmodernité est une vaste entreprise de démolition, ou de déconstruction. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la pensée postmoderne consiste à démolir, à déconstruire toutes les traditions philosophiques, religieuses et humanistes selon lesquelles la raison humaine est la clé de la liberté et du bonheur. D'accord? La postmodernité consiste à démolir, à déconstruire toute tradition philosophique, religieuse, humaniste, selon lesquelles la raison humaine est la clé de la liberté et du bonheur. Dans la perspective postmoderne, toutes ces traditions, toutes ces idéologies, tous ces « ismes », entre guillemets, que ce soit le christianisme, le matérialisme, l'humanisme, le capitalisme, j'en passe et des meilleurs, le communisme, tous ces « ismes » sont des illusions. Ce sont des utopies qu'il faut démolir, déconstruire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mot postmodernisme en français n'a, à mon sens, en fait, aucun sens. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Le mot postmodernisme n'a, à mon sens, strictement aucun sens dans la mesure où le but de la postmodernité est précisément de démolir tout isme, toute idéologie, dont le postmodernisme, qui finit par un isme aussi. Vous comprenez? D'où l'importance de parler de postmodernité, et non pas de postmodernisme. Donc, postmodernité, une vaste entreprise de démolition, de déconstruction de toute tradition philosophique, religieuse ou humaniste. Deuxième caractéristique, le rejet de toute prétention à trouver une vérité objective. En d'autres termes, la postmodernité s'attache au principe de Judson. Alors, dans la fiction, hein, pas dans la réalité, au principe de relativisme. On parle aussi du pluralisme selon lequel la vérité n'existe pas. Ou si la vérité existe, elle est inaccessible. Ok? Donc j'aime bien faire cette distinction parce que certains relativistes vous diront peut-être c'est pas tant que la vérité n'existe pas, c'est que si elle existe, elle est inaccessible. Et reste de toute façon un concept purement subjectif. Trois exemples pour nous aider à comprendre peut-être cette idée. Est-ce que vous vous rappelez du boys band irlandais Boyzone dans les années 90? Vous vous rappelez Boyzone? Non? Ok, c'est pas grave. Une chanson disait à peu près ceci. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils enseignent, ce que tu crois est vrai. Ce que tu crois est vrai. Deuxième exemple, les Manic Street Preachers. Vous vous rappelez de ce groupe de rock gallois qui a sévi aussi au siècle dernier. Dans l'une de leurs chansons, voilà ce qu'ils disaient. C'est ma vérité, dis-moi la tienne. C'est ma vérité, dis-moi la tienne. Troisième exemple qui va peut-être nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Coldplay, peut-être plus proche de notre époque avec le chanteur Chris Martin. Je suis fan de Coldplay, personnellement j'ai leurs 3-4 albums peut-être. Et j'ai eu la chance de d'assister à, alors pas un concert, rassurez-vous, à une interview, parce que les interviews de Coldplay sont assez rares, sur M6. Et à la fin de l'interview, la journaliste d'M6 a posé à Chris Martin la question suivante. Mais en quoi croyez-vous? Parce que le chanteur Chris Martin vient d'une famille chrétienne, lui-même n'est pas chrétien, mais sa sœur est chrétienne, elle a participé à plusieurs camps chrétiens. Lorsque j'étais en Angleterre, d'ailleurs je connaissais quelqu'un qui connaissait sa sœur. Il parle beaucoup de Dieu, Chris Martin, dans ses chansons. Et la journaliste lui a posé, mais en quoi croyez-vous? Vous savez ce qu'il a répondu, Chris Martin? Ça m'a beaucoup déçu. Nous croyons en tout. Mais ça ne veut strictement rien dire. Croire en tout ne revient-il pas finalement à ne croire en rien finalement? Absolument. Ça m'a beaucoup déçu, du coup, je suis un peu moins fan de Coldplay. Fin de la parenthèse. De quoi? C'est ça. D'ailleurs, 5 euros, hein. Mais est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire vraiment de tous les mouvements de pensée, de tous les concurrents modernes au christianisme, la postmodernité est peut-être celui qui lance le plus grand défi hein, au christianisme. Est-ce que c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est important d'essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et pourquoi le relativisme, qui est une caractéristique mais fondamentale hein, de la postmodernité, c'est l'une des deux caractéristiques principales, pourquoi le relativisme est aujourd'hui tellement répandu dans l'esprit de la majorité des hommes en Occident, et peut-être dans celui de nos amis, que nous côtoyons tous les jours à la fac, au travail, dans la rue, ou même dans les transports en commun. Alors pour comprendre un peu cette montée en puissance, du relativisme, caractéristique de la postmodernité, je vous propose de prendre l'avion. Je sais qu'Air France est en grève en ce moment, mais je vous propose quand même de prendre l'avion pour faire un rapide survol de l'histoire de la philosophie. Alors les profs de philo, Jonah notamment, qui est là, vont s'arracher les cheveux, parce que je vais aller très très vite, d'accord? Mais je pense qu'il est important d'essayer de comprendre l'histoire de la philosophie pour comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, à une époque postmoderne. Caractérisé par un relativisme ambiant. Et j'emprunte ce que je vais dire à Monsieur Luc Ferry. Il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et à Luc Ferry ce qui est à Luc Ferry. Je m'inspire de ce livre que je vous conseille de lire, Luc Ferry, Apprendre à vivre, qu'il a sous-titré Traité de philosophie à l'usage des jeunes générations. Et voici, voilà, alors la phrase un petit peu qui se situe sur la couverture. Je vais te raconter l'histoire de la philosophie. C'est très facile à lire, Apprendre à vivre. Luc Ferry tutoie son lecteur, il le prend par la main, il lui montre les choses. C'est vraiment très pédagogique, très facile à lire, très instructif. J'en ai en tout cas beaucoup profité. Donc nous sommes au deuxième point. Après, qu'est-ce que la modernité? Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Figurez-vous que c'est la première question que pose Luc Ferry dans son livre. Et pour lui, au-delà d'une simple formation à l'esprit critique, ou d'une simple capacité à s'étonner des choses de la vie, Jeanne Hersch a écrit notamment un livre, L'étonnement philosophique, pour faire un peu ce que fait Luc Ferry, une histoire de la pensée. Pour lui, la philosophie consiste d'abord à répondre à la question posée par la mort. C'est très intéressant, hein. Pour lui, pour Luc Ferry, au-delà d'une simple formation à l'esprit critique, au-delà d'une simple capacité à s'étonner, pourquoi est-ce que je vis, par exemple, la philosophie est d'abord là pour répondre à la question de la mort. En philosophie, la mort, la finitude de l'existence, est pour lui le point d'interrogation, la question principale, le plus gros problème de l'existence. Vous connaissez peut-être cette citation de Woody Allen qu'on ne présente plus, hein, j'ai eu la chance de dormir dans un hôtel qui a donné son nom à un film de Woody Allen, Hôtel 117, c'était un hôtel à New York, très glauque, très Woody Allen, des couloirs sombres, mal éclairés. Je comprends très bien pourquoi il a choisi ce décor pour faire son film. Woody Allen qui a dit ceci: « Ce n'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, hein, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. » Pas bête, hein. La mort, c'est pas mon problème. Ce que j'aimerais, c'est ne pas être là quand ça arrivera. Eh bien, c'est mal barré. C'est mal barré parce que le problème, c'est que nous serons tous un jour confrontés, hein, à cette réalité ultime de la mort, de la finitude de la vie, de la finitude de l'existence. D'où cette question, mais fondamentale et essentielle, que pose la philosophie, selon Luc Ferry. Comment faire face à cette réalité incontournable? Comment? Comment se libérer des craintes suscitées par cette réalité ultime? Comment être sauvé de la mort? Pour Luc Ferry, c'est la question principale que pose la philosophie. Et à cette question, comment être sauvé de la mort, quatre réponses ont été apportées à quatre grandes périodes de l'histoire de l'humanité. La première réponse est la réponse, comme vous pouvez le voir sur le plan, la réponse cosmologique, qui va de l'Antiquité au 1er siècle après Jésus-Christ. Comment être sauvé de la mort? Réponse de la cosmologie grecque, de la philosophie ancienne, hein, si vous voulez. Par soi-même. Par soi-même. Sans l'aide de personne. Le salut, je vais très vite, excusez-moi, hein, mais le salut passe par la contemplation, la compréhension, l'imitation et la fusion avec le cosmos. C'est-à-dire avec l'ordre divin de monde. Donc je contemple le monde qui m'entoure. J'essaie de comprendre comment ça marche. J'essaie de l'imiter en tant que modèle dans le but de fusionner. Vous voyez comment l'observation du monde me permet de comprendre que j'en fais partie et que je dois l'imiter quelque part pour fusionner avec lui de manière impersonnelle et anonyme. Et c'est comme ça que, selon cette réponse cosmologique, on échappe à la mort en fusionnant de manière impersonnelle et anonyme avec le cosmos à la fin de la vie. Réponse cosmologique à la question de la mort. Comment être sauvé de la mort par soi-même, sans l'aide de personne? Cette réponse cosmologique sera remise en question et complètement dépassée par l'émergence de ce en quoi vous croyez aujourd'hui, le christianisme, du 1er au 15e siècle. Comment être sauvé de la mort si la réponse cosmologique à cette question est par soi-même, sans l'aide de personne, la réponse chrétienne à cette question est par un autre. En l'occurrence, Dieu, parrain notre. Le salut passe par la foi et l'obéissance au commandement de Dieu. Celui qui croit en Jésus, par exemple, a la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit lui-même dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 36. Comment résister? C'est génial. Comment résister? Ce qui fait dire à Luc Ferry que c'est finalement trop beau pour être vrai. Et c'est la raison qu'il invoque pour ne pas devenir chrétien. Pour lui, c'est trop beau pour être vrai. Mais il accorde, il concède aux chrétiens vraiment cette supériorité quelque part qu'ils ont par rapport aux autres. Ils ont une espérance extraordinaire qu'aucune autre religion n'a après la mort. L'assurance de la résurrection corporelle. Luc Ferry avoue que c'est un avantage majeur, mais pour lui, malheureusement, c'est trop beau pour être vrai. Cette réponse chrétienne va dominer le monde pendant 15 siècles, mais sera finalement remise en question et dépassée par... Tout à fait, ouais, le siècle des Lumières. Les découvertes scientifiques du 15e au 20e siècle. C'est donc la réponse moderne du 15e au 20e siècle. À la fin du 15e siècle, l'humanité est au seuil d'un nouveau monde. Hein. L'Amérique est découverte par Christophe Colomb, 1492, hein, je crois. L'humanité est aussi à l'aube d'une nouvelle ère en matière de communication. La presse à imprimer est inventée. Ça va révolutionner. Hein. Le monde de la communication. Pour faire face à la mort et pour en être sauvé, les hommes ne peuvent plus désormais imiter le cosmos, le monde. Pourquoi? Parce qu'il est trop violent, notamment après des catastrophes naturelles comme le tremblement de terre de Lisbonne en 1555. Donc du coup, la nature, le cosmos, le monde n'est plus un bon modèle à imiter parce que c'est violent, ok? Donc je peux plus l'imiter, je peux plus fusionner avec lui parce que c'est un monde violent. Les hommes ne peuvent plus non plus obéir à Dieu. Pourquoi? Ben parce qu'il n'existe plus Dieu. Hein. Au XVe siècle, Dieu est sérieusement remis en question par certaines personnes, pas par tout le monde. Mais des découvertes scientifiques ont remis en question, en tout cas, son existence dans la pensée de beaucoup de monde. Que faire? Que croire? Quel modèle imiter pour faire face à la mort et pour être sauvé de la mort? Quel modèle imiter? Plus le cosmos? Trop violent? Trop méchant? Plus Dieu? Il n'existe pas. Sur quel modèle? Quel modèle imiter? Ouais, la raison en fait. En fait, ce modèle, c'est celui de l'homme. De l'homme qui va prendre la place de Dieu pour devenir le fondement ultime de toute valeur. Et notamment de toute valeur morale. Autrement dit, le centre du monde. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, tout simplement, l'humanisme. L'humanisme, une vision du monde selon laquelle la validité des convictions ne se fonde plus sur la révélation de Dieu. Vous me suivez toujours, hein? Donc la validité des convictions ne se fonde plus sur la révélation de Dieu dans la Bible, mais sur la raison, comme Bruno le disait, sur la raison autonome de l'homme, capable de comprendre et de maîtriser l'univers, du lever du soleil jusqu'à la destinée finale de l'humanité. Pas mal comme projet, hein? L'humanisme, une véritable religion qui remplace la doctrine tellement moyenâgeuse et poussiéreuse du péché originel par celle de la bonté inhérente de l'homme, qui remplace la doctrine de la vérité par la doctrine de la tolérance. C'est très important ça. La doctrine du péché originel va être remplacée progressivement par la doctrine de la bonté inhérente de l'homme, et la doctrine de la vérité objective révélée d'eux par Dieu va être remplacée par la doctrine de la tolérance ou du relativisme. L'humanisme. Mais cette réponse moderne, ironie du sort, hein, cette réponse moderne va être elle-même remise en question et dépassée par la réponse postmoderne. En fait, la modernité va être incapable de fournir des vérités éternelles et universelles. C'est ce que la modernité a essayé de faire, hein, avec le siècle des Lumières. Fournir des vérités éternelles et universelles sur à peu près le monde entier. Eh bien, cette réponse moderne va être dépassée par la réponse postmoderne de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours. Selon Alistair McGrath, toujours dans ce livre, mais aussi dans celui-là que je vous conseille, qui n'a pas été traduit en anglais, ça s'appelle « The Twilight of Atheism », « Le crépuscule de l'athéisme », « The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World », donc « The Rise and Fall », l'apogée, la montée et la chute un peu de la non-croyance dans le monde moderne, pour le traduire en français, hein, si ça vous intéresse. Selon Alistair McGrath, la postmodernité est donc une perspective intellectuelle générale, née de la faille de la modernité. Vous comprenez pourquoi, hein? Parce que la modernité n'a pas réussi finalement à expliquer, à affirmer des vérités universelles et éternelles pour expliquer le monde. Donc c'est pour cette raison qu'elle est née, que la postmodernité est née de la modernité. Mais de manière plus générale, la modernité, comme on l'a dit, et comme j'espère vous êtes en train de le comprendre, est un bouleversement culturel vraiment majeur. Hein. Une nouvelle façon de voir le monde, caractérisée donc par la déconstruction de toute idéologie et l'attachement au principe de relativisme, selon lequel, encore une fois, la vérité n'existe pas, ou si elle existe, est inaccessible. Et c'est, comme je l'ai dit, l'un des plus grands défis lancés au christianisme. D'où ce troisième et ce dernier point, après avoir vu la postmodernité. Qu'est-ce que la postmodernité? Qu'est-ce que la philosophie? Troisièmement et dernièrement, quelle défense de la foi? Comment défendre la foi chrétienne face aux défis de la postmodernité? Et pour terminer, j'aimerais essayer de voir avec vous comment répondre à deux objections qui me semblent caractéristiques de la postmodernité et que vous entendez peut-être souvent dans la bouche de vos amis. Comment répondriez-vous, par exemple, à cette objection? La vérité n'existe pas. Ce que tu crois est vrai. La vérité n'existe pas. Ce que tu crois est vrai. Deux remarques, simplement. Est-ce que vous avez remarqué la contradiction interne de la première partie de cette affirmation. Je répète, la vérité n'existe pas. Est-ce que vous avez remarqué la contradiction interne de la première partie de cette affirmation ? La vérité n'existe pas. Franchement, moi je dis, quelle belle vérité, quoi. Hein ? Vous comprenez ? La vérité n'existe pas, sauf celle-là. Le fait de dire, deux points, ouvrez guillemets, allez à la ligne, la vérité n'existe pas, mais c'est une vérité en soi. Incohérente. Okay ? Deuxième remarque. Ce que tu crois est vrai. Est-ce bien vrai ? Par exemple, ce que croit un nazi est-il aussi vrai que ce que croit un démocrate ? C'est une question que je pose. Hein. Le soldat nazi qui a exterminé des dizaines ou des centaines de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est convaincu que le nazisme est vrai pour lui. C'est ce en quoi il croit. C'est pour ça qu'il agit comme il agit d'ailleurs. Derrière son action, il y a une conviction. Ok ? Mais ses actes, qui sont encore une fois les conséquences directes de ce qu'il croit, hein, ces actes sont-ils aussi vrais que ceux du démocrate qui vit en paix avec les autres ? Je suis conscient que ces questions sont un peu provocatrices, hein, mais je pense qu'elles ont au moins le mérite de révéler l'inconsistance morale du relativisme. Et Jonah en parle notamment dans son livre, hein, de cette inconsistance morale. Il existe des critères, il existe des normes, il existe une règle, une loi morale absolue, une vérité universelle, une base sur laquelle nous nous appuyons pour condamner certains actes, indépendamment de ce que croient leurs auteurs. Seconde objection. Il n'y a pas une seule vraie religion. Toutes les religions se valent. Celle-là, si je devais être payé 1 € chaque fois que je l'ai entendu sur les campus, je serais aujourd'hui millionnaire et en vacances aux Bahamas. Toutes les religions se valent. Voyons. Il n'y a pas une seule vraie religion. Quelle arrogance. Quelle arrogance de dire ça. Toutes les religions se valent, voyons. Voyons voir. Là encore, si je puis me permettre, mais est-ce que vous avez remarqué l'inconsistance de cette position ? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de point commun, hein, entre les religions. Par exemple, les chrétiens, les musulmans et les juifs croient tous en un Dieu unique et créateur. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de point commun. Il y a des points de contact entre la plupart des religions, c'est vrai, notamment les religions monothéistes. Okay ? Mais force est de constater, hein, qu'il y a aussi des différences absolument irréconciliables entre certaines religions, n'est-ce pas ? Par exemple, un bouddhiste zen ne croit pas du tout en Dieu. Le bouddhisme, ou le zen, plus exactement, est un mode de vie, je cite sur un site bouddhiste zen, qui n'implique que soi envers soi, que soi envers l'univers. Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme zen. Comment le Dieu du bouddhisme qui n'existe pas peut-il être celui des autres religions qui existent ? Un problème à ce niveau-là. Un musulman, par exemple, mes amis musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Pour lui, Jésus est un, pour eux, pour lui aussi, Jésus est un simple prophète. Comment le Dieu de l'islam, d'accord, peut-il être le même que celui du christianisme, qui selon la Bible est pleinement Dieu et pleinement homme ? Différence irréconciliable. Toutes les religions ne se valent donc pas. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Les deux ne peuvent pas être faits en même temps, c'est une incohérence. Ou même une contradiction. Soit Jésus est Dieu, soit Jésus n'est pas Dieu. La seule solution cohérente sur le plan intellectuel, mais aussi philosophique et théologique, c'est l'existence d'un seul Dieu, d'une seule vérité. Et le christianisme prétend être cette vérité. Jean chapitre 14, verset 6, vous connaissez peut-être tous ce verset par cœur, hein. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Je suis le chemin, dit Jésus, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Les religions disent, je suis un messager venu vous trouver pour vous aider à trouver Dieu. Le christianisme dit le contraire, je suis venu Dieu. Je suis Dieu en personne. Venu vous trouver. Vous saisissez la différence ? Les religions disent, je suis un messager venu vous aider. Ok ? à trouver Dieu. Le christianisme dans la personne de Jésus dit le contraire. Je suis Dieu, venu vous trouver. Le christianisme est une religion, mais unique, absolument unique en son genre, qui se distingue de toutes les autres dans la mesure où ce n'est pas l'homme qui essaye de monter vers Dieu pour le trouver, mais Dieu lui-même. Dieu lui-même qui, dans la personne de Jésus, descend vers nous pour se révéler à nous, pour vivre parmi nous, pour nous aimer et pour mourir pour nous.